Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, pour m'accompagner ce soir, Philippe Christel et Pascal Essérick. Bonsoir messieurs, et puis bonne année à vous et bien sûr à nos auditeurs.
Bonsoir Patrick, excellente année.
Alors, nous allons commencer l'année sur les chapeaux de roue, car nous avons le plaisir de recevoir Michel Goya, que nos auditeurs connaissent bien. Pour vous avoir déjà reçu deux fois, vous venez de signer un nouveau livre, Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée, 12 juillet 14 août 2006, aux éditions du Rocher. Mais cette fois-ci, Michel Goya, vous avez rédigé à deux, avec Marc-Antoine Briand, qui nous fait le plaisir d'être aussi avec nous dans ce studio. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, pour vous présenter, Michel Goya, vous êtes colonel et vous dirigez actuellement le bureau de recherche du centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre. Vous avez participé à plusieurs opérations extérieures. Vous en êtes à votre cinquième ouvrage et vous tenez l'excellent... Enfin, c'est le quatrième, il y a le cinquième qui sort...
Dans deux jours.
Dans deux jours. Et vous tenez aussi l'excellent blog La Voix de l'Épée. Ouais. Marc-Antoine Briand, vous êtes diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous avez été chef de bataillon avec des séjours en Afghanistan et au Liban, et actuellement vous travaillez aussi au centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre. Alors, nous avions commenté, je me suis aperçu en 2006, déjà, on était déjà sur cette antenne, à chaud ces combats entre Israël et le Hezbollah, et par l'intermédiaire de notre chroniqueur de l'époque, Olivier Lebrun. Et il avait été surpris par la capacité militaire de la préparation du Hezbollah, avant même de parler des errements de l'armée israélienne. Comment vous l'avez ressenti à l'époque? Vous avez eu la même surprise?
On s'est trouvé dans une configuration qui ressemble un petit peu à, en science, ce qu'on appelle les césures épistémologiques. C'est-à-dire quand la théorie ne fonctionne plus, qu'il y a des faits qui sont complètement étranges et qui mettent en doute la théorie. Et là, on a une armée l'armée israélienne, donc, qui est mise en échec par une organisation non gouvernementale qui ne dispose même pas d'armement lourd, pas de chars, très très peu de choses, et qui parvient à tenir tête à la très puissante Tsahal. Et donc là, on est face à une anomalie tactique, voire une anomalie stratégique. Après, Léa Gira, ce n'est pas la seule de cette période, qui marque très certainement un tournant. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, le Hezbollah était une organisation qui avait pensé cette guerre, qui avait pensé son ennemi, et qui avait mis en place un modèle de force qui était adapté, parfaitement adapté au contexte et à la situation tactique, un peu à la manière des Esquimaux qui sont parfaitement adaptés à un milieu hostile. Eux se sont parfaitement adaptés à l'armée israélienne. Ils ont compris quelles étaient ses forces et ses faiblesses.
Marc-Antoine Briand, sur justement à ce moment-là en 2006, c'est une surprise.
Je vous dirais que pour nous, observateurs occidentaux, je pense qu'on a découvert le Hezbollah en 2006, alors que les gens qui vivaient au Proche-Orient savaient déjà ce dont il était capable. Donc je pense qu'il y a eu un défaut avant 2006, un défaut de connaissance, un défaut d'intérêt de notre part. Après, pour les observateurs, on va dire, concernés que nous sommes, qui sommes intéressés à la chose militaire, ça a pas vraiment été une surprise, puisque à partir du moment où le Hezbollah a profité du retrait israélien des années 2000, nous savions qu'allait se mettre en place. Donc, si vous voulez, la nature ayant horreur du vide, le Hezbollah n'allait pas laisser un espace aussi, j'allais dire aussi grand, aussi vaste face à Israël sans en faire quelque chose. Donc, il était évident que le Hezbollah allait mettre en place une stratégie asymétrique adaptée. Entre les années, j'allais dire fin 90 et jusqu'à 2005-2006, le Hezbollah a continuellement testé le dispositif israélien, tant sur des frappes de roquettes, pour voir comment la société civile s'est organisée face à ce type de menace, que des incursions en territoire israélien pour aller tester militairement le dispositif de Tsahal sur la frontière. Donc on pouvait quand même présumer que le Hezbollah s'était démarqué des mouvements palestiniens qui paraissaient moins professionnels.
Alors, tout commence par une opération commando du Hezbollah le 12 juillet, et sincèrement, on n'est pas loin d'une introduction d'un film de James Bond, parce que c'est vraiment une opération qui est très, très bien mise en place. À ce moment-là, le Hezbollah prévoit-il déjà qu'il va avoir l'engrenage tel qu'il va se passer? C'est-à-dire qu'ils savent que tout de suite, il va avoir une riposte d'Israël?
Probablement non. Ça, c'est, il reste quand même un doute sur cette question, sur le pourquoi en réalité de cette opération. Il semble que le Hezbollah ait malgré tout été surpris par l'ampleur de une réaction israélienne. Ça, c'était attendu.
Il faut peut-être rappeler l'opération, c'est qu'il va avoir deux soldats israéliens qui vont être enlevés.
C'est-à-dire que c'est une opération de pénétration sur un commando du Hezbollah qui pénètre à l'intérieur du territoire israélien. Donc, il faut effectivement souligner la performance professionnelle. Hein. Ce sont des gens qui sont introduits d'abord dans les réseaux électroniques, qui ont vu qu'il y avait une faille dans le dispositif, qui ont creusé, qui sont entrés à l'intérieur, parce que toute la frontière israélienne est protégée par une barrière de défense, qui savaient que, et donc ils ont pénétré à l'intérieur, qui sont tombés sur une patrouille israélienne dont ils savaient qu'elle était sur le point d'être relevée, donc c'était la dernière patrouille, ils n'étaient pas au top de la vigilance, et donc ils ont monté une embuscade contre cette patrouille, qui ont tué un certain nombre de soldats, qui en ont capturé deux, qui se sont enfuis, qui savaient pertinemment qu'ils allaient être là aussi traqués par l'élément de réaction israélien, qui font tomber cet élément de réaction dans une embuscade à nouveau, une deuxième embuscade, et à la fin, point d'or, qui effectivement fait penser à un film de James Bond, c'est qu'au moment où les Israéliens envoient des drones pour essayer de suivre le commando, ou au moins suivre les deux soldats qui ont été capturés, et au-dessus ils savent où est le village où les gens se sont réfugiés, et puis ils voient partir des véhicules identiques dans tous les sens en même temps, donc il est impossible à suivre tous, évidemment, en même temps. Donc effectivement, une action d'un très haut professionnalisme, point de vue tactique, militaire, qui aurait peut-être d'ailleurs donné, enfin c'était pas la première action commando de la part du Hezbollah, mais ça aurait pu effectivement mettre un peu la puce à l'oreille sur ce qui allait se passer ensuite, sur les difficultés que les Israéliens allaient connaître par la suite. Alors après, pourquoi ? Ça fait débat. Hassan Nasrallah, donc le leader
du Hezbollah.
Le leader du Hezbollah a avoué par la suite que, enfin, il a dit, alors c'était peut-être un discours à usage politique interne, disant qu'il avait été surpris, qu'il n'avait pas voulu une telle guerre qui a ravagé le Liban, et que c'était pas du tout dans son intention, et qu'il a été surpris par l'action israélienne. Mais en réalité, on ne sait pas trop, on ne peut que supputer sur les intentions réelles du Hezbollah à ce moment-là.
Marc-Antoine Briand, sur l'armée israélienne elle-même, en fait, vous expliquez quand même dans le livre que ça faisait plus d'un an qu'il y avait déjà un plan d'invasion qui a été baptisé Marée élevée, donc elle était prête à ce genre de situation.
Alors oui, vous avez raison sur le fait que Israël avait conscience que Israël est organisé, j'allais dire, sur deux fronts. Un front nord face au Hezbollah, un front sud face au mouvement palestinien, à Gaza notamment. Je pense, pour ma part, qu'Israël, le fait de savoir qu'on va affronter et qu'on se prépare, ne veut pas forcément dire qu'on est complètement prêt. Et qu'un plan, et je sais que le Kohel Goya me le répète souvent, bien souvent un plan ne résiste pas au premier coup de canon. Et en l'occurrence, le Hezbollah a été suffisamment intelligent pour, j'allais dire, trouver la faille permettant de mettre un petit peu en branle la structure militaire israélienne. Oui, ils le savaient, ils allaient combattre. Oui, ils savaient qu'il y avait un plan. Maintenant, il est difficile de... et je pense qu'on en parlera par la suite dans le cadre du débat. Je pense qu'ils... sous la forme d'une armée pour la gestion d'opérations de police dans les territoires occupés, une armée qui avait perdu l'expérience de la guerre et que s'entraîner, faire du travail sur carte, sur ce qu'on appelle des carrés verts chez nous dans l'armée, hein, donc travailler sur carte avec des petits pions qu'on bouge sur des cartes, ça ne remplace pas l'expérience du terrain, ça ne remplace pas, j'allais dire, une armée professionnelle entraînée avec des cadres qui ont connu la guerre, qui sont encore en place et capables finalement de commander au feu. Je pense que c'est un petit peu tout cet ensemble qui a manqué à Israël à l'instant T.
Oui, parce que Michel Gola, vous expliquez quand même, et ça me rappelle l'un de vos anciens livres, vous expliquez que l'armée israélienne a été très impressionnée par la première guerre en Irak et il tombe un peu dans le piège de la supériorité technologique. Alors que vous nous aviez expliqué une fois que la guerre en Irak, c'était l'exception qui confirmait la règle.
Oui, alors c'était la première guerre en Irak.
Oui, la première guerre,
du Golfe en 91, qui à ce moment-là était aussi une anomalie dans la mesure où on se retrouvait avec une armée irakienne écrasée d'un seul coup avec des pertes en face qui étaient relativement faibles et là aussi ça avait surpris tout le monde. Donc on était, c'est d'ailleurs, je pense, le début d'un cycle. Cette anomalie était le début d'un cycle et peut-être que cette guerre de 2006 avec les difficultés qui sont simultanées en Afghanistan et en Irak, constitue la fin peut-être de ce cycle. Bon, et ce qui s'est passé effectivement en Israël, c'est que, Israël doit faire face à trois menaces dans la stratégie israélienne. On considère qu'il y a l'ennemi proche. En gros, c'est les États arabes qu'ils ont affrontés à plusieurs reprises, la Syrie, l'Égypte, etc. Bon, en l'occurrence, actuellement, il n'y a plus que vraiment que la Syrie. L'ennemi intérieur, c'est-à-dire les territoires palestiniens et éventuellement le Liban Sud, au moment où vous occupez le Liban Sud. Et puis l'ennemi lointain, qui est l'Iran, en réalité. Bon. Et ces ennemis sont différents. Nécessite normalement des modèles de force et des modes d'action qui sont différents, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre une armée régulière, l'armée régulière syrienne, comme on lutte contre le Hamas au milieu des populations. Mais ils ont eu l'illusion d'une grande théorie unifiée, finalement. Ils se sont dit, finalement, on peut arriver, grâce à la technologie, grâce aux capacités de feu à distance, avec précision, on est capable de tout faire, finalement. On est capable à la fois de lancer des raids contre l'Iran, s'il le faut. On est capable de détruire n'importe quelle armée grâce à notre puissance de feu, et particulièrement notre puissance aérienne. Mais aussi, on est capable de gérer, finalement, ces territoires à distance grâce à nos tirs précis. C'est la raison pour laquelle, aussi, ils ont évacué le sud du Liban, et ils ont évacué aussi la bande de Gaza, militairement, en se disant, à distance, on est juste à côté, on peut frapper quand on veut, où on veut. Avec nos drones, ce sont des territoires relativement petits, avec nos drones, on peut surveiller tous ces espaces et on peut les frapper quand on veut. Là, c'était une grande illusion, en réalité. La première étant qu'effectivement, en évacuant ces zones, ces régions sud Liban, bande de Gaza, ont été occupées politiquement par d'autres. Et militairement, on s'est aperçu que ce n'était pas aussi évident que cela, les frappes à distance. Mais vous parliez du plan. En réalité, le plan israélien n'a pas été appliqué parce qu'il comprenait d'emblée une partie terrestre. Il y avait une partie qui comportait une invasion du sud Liban jusqu'au fleuve Litanie, et puis le nettoyage complet du sud Liban. Et c'est cette partie, en réalité, qui n'a pas été appliquée.
Oui, parce que vous dites que Israël va se retrouver avec une stratégie qui ressemble un peu au Hezbollah, c'est-à-dire cibler les populations, mais surtout ne plus occuper le terrain. Quelles vont être les conséquences? En fait, c'est la fin de cette guerre éclair où on occupe le terrain de l'adversaire.
C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une configuration, et on aura le même problème d'ailleurs avec le Hamas, d'un côté, vous avez des armées comme les forces du Hezbollah ou du Hamas sont incapables, évidemment, d'affronter en rase campagne les divisions blindées de Tsahal. Ils savent très bien ils sont dans une posture défensive et donc ils refusent d'affronter directement ces forces, ces unités de combat de Tsahal, mais ils se débrouillent pour pouvoir frapper quand même Israël. C'est-à-dire que l'action offensive a lieu par le biais de tout l'arsenal de roquettes dont un certain nombre à longue portée dont dispose le Hezbollah. Et donc, c'est leur arme offensive. Ils vont frapper Israël. En réalité, ils vont frapper surtout les civils, quoi. Mais du côté israélien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en refusant d'aller au contact, d'engager des combats au sol et en reposant uniquement sur une capacité de frappe à distance, ils vont s'apercevoir que finalement, ça va tuer beaucoup plus de civils que des combats, je dirais, normaux, habituels. Et on est dans cette configuration assez inédite où on tue plus de civils et les civils sont beaucoup plus frappés que les combattants eux-mêmes qui se rencontrent relativement peu.
Oui, on va voir tout à l'heure quelques chiffres. Marc-Antoine Briand, sur le Hezbollah lui-même. L'image qu'on en avait, c'était en fait une force terroriste. En fait, dans votre livre, vous expliquez que c'est devenu une guérilla très sophistiquée.
En fait, le Hezbollah a suivi différentes phases d'évolution. À l'origine, c'était effectivement un groupe radical aux méthodes terroristes. C'est-à-dire l'emploi de l'action kamikaze, c'était parmi un des premiers mouvements à utiliser ce type d'action pour réellement terroriser, pour marquer les esprits d'une population et donc à terme c'est du pouvoir politique qui peut éventuellement céder sous la pression de sa propre population.
Contre nous, il faut pas l'oublier.
Oui, en plus et contre nous aussi, Drakkar, voilà.
C'est quand même l'organisation qui nous a causé le plus de pertes depuis la fin de la guerre d'Algérie, le Hezbollah.
Comme le soulignez. Et donc à partir de, si vous voulez, ce mouvement, j'allais dire ce groupe radical aux méthodes terroristes, le Hezbollah, grâce, j'allais dire, à l'arrivée de Hassan Nasrallah, a mené une réflexion. on sait que le Hezbollah est, on va dire, un jouet, parce que c'est un peu fort, mais en tout cas, une entité qui est largement soutenue par la Syrie et l'Iran, tant sur le plan militaire que sur le plan financier. La Syrie et l'Iran n'ont pas d'intérêt, j'allais dire, à mettre un groupe qui va s'ostraciser tout seul au sein du Liban, s'il n'y a pas une véritable stratégie derrière. Et cette stratégie, c'était donc de pouvoir influencer la politique au Liban. Pour ce faire, il faut donc que le Hezbollah quitte son espèce de coquille finalement terroriste pour devenir quelque chose d'autre. La chance du Hezbollah, c'est que l'État libanais et l'État central étaient faibles, étaient faillis, notamment au sud du Liban. Pour ceux qui, les auditeurs qui connaissent un petit peu la région, le sud du Liban, c'est une vraie campagne qui est largement, j'allais dire, défavorisée. Un problème de scolarisation des enfants, économie principalement basée sur l'agriculture, donc difficultés économiques, contrairement au nord qui est un peu plus, j'allais dire, axé sur les activités des services. Et le Hezbollah a profité de cette situation, j'allais dire, de délabrement un petit peu local, administratif local, pour s'implanter durablement. Et tout doucement, au fil des ans, a commencé à devenir une force d'abord paramilitaire. C'est-à-dire que l'argent qui arrivait de Syrie et d'Iran a permis de structurer le Hezbollah par des formations militaires, par un achat d'équipements de grande qualité, et qui finalement a donné au Hezbollah l'image d'un groupe insurrectionnel plus constitué, plus solide. L'étape qui a suivi, c'est de faire du groupe, enfin, de cette force paramilitaire, un mouvement politique et social qui a remplacé au sud du Liban l'État libanais, tout simplement. Et donc effectivement, bah, au moment des événements, alors pour les Israéliens qui étaient en face du Hezbollah depuis très longtemps, ça ne les a pas forcément surpris, puisqu'ils savaient très bien qu'ils avaient face à eux une structure militaire qui n'était pas forcément comparable au groupe palestinien, même s'ils n'avaient pas toute la mesure de ce qu'était devenu le Hezbollah. Mais c'est sûr que Tzal, à l'instant T, a fait face à une organisation dont elle n'avait pas soupçonné l'ampleur, les ramifications dans la population, dans la société civile, et au final, bah, la capacité à arrêter ces divisions blindées en zone urbaine.
Oui, parce que vous expliquez, ils ont des méthodes de surveillance qui sont dignes d'un État moderne, surveillance des médias israéliens, agents de renseignement. Est-ce que Israël a découvert cette stratégie, ou est-ce qu'ils ont, ils avaient l'impression d'aller faire une petite guérilla un peu comme en Amérique du Sud, parce que c'est assez impressionnant, ils ont même des drones que l'armée française n'a même pas.
quand même, on peut pas dire ça. Voilà.
Les drones, enfin, ils ont des drones de surveillance, voilà, qui vont surveiller les.
Les drones dont dispose le Hezbollah sont principalement d'origine iranienne, hein, c'est des Ababil, qui sont des drones quand même relativement légers, alors qui peuvent mener effectivement des actions mais plutôt de courte durée. C'est pas les drones que nous avons qui sont qu'on appelle drones de mal, hein, moyenne altitude, longue endurance, qui permettent de surveiller une zone beaucoup plus importante, de façon beaucoup plus, j'allais dire, durable dans le temps, plus permanente. Donc oui, ils possèdent, c'est sûr, pour un mouvement qu'on estimait, j'allais dire, asymétrique, ont des moyens conséquents. Attends, il faut les relativiser en comparaison avec une armée conventionnelle. Il faut quand même les relativiser.
Oui, Michel Goya.
Oui, c'est quand même une organisation non étatique qui dispose d'une force de frappe capable de frapper Tel Aviv et de lancer des missiles sur Tel Aviv. C'est la seule organisation non étatique au monde à posséder ça, quand même, cet arsenal. C'est quand même assez particulier. Mais alors, les Israéliens, si vous voulez, connaissaient à peu près les moyens, les ordres de bataille du Hezbollah, savaient à peu près. Connaissaient à peu près les moyens du Hezbollah, mais ils ont certainement, d'abord, je pense qu'ils se sont focalisés sur la menace des lanceurs, qui est pour eux le principal, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont face à un adversaire qui est capable de lancer des charges de 600 kilos d'explosifs au milieu de Tel Aviv. Bon, donc je pense qu'ils se sont un peu focalisés là-dessus, sous-estimant le reste, sous-estimant l'infanterie du Hezbollah, notamment. Et puis ensuite, très clairement, il y a eu un péché d'orgueil de la part des Israéliens, oui, voyant le rapport de force écrasant en leur faveur, n'ont pas imaginé une seule seconde que ça pouvait poser vraiment de gros problèmes face à un tel différentiel de puissance. Et puis il ne faut pas oublier un facteur, c'est que l'armée israélienne est une armée qui est jeune, qui est fondamentalement jeune. C'est une armée d'appelés, dont les officiers sont soit des appelés, soit des officiers sous contrat court, et il n'y a que quelques officiers supérieurs qui sont nos officiers de carrière et qui sont eux-mêmes plus jeunes que l'équivalent français, par exemple. Ce qui veut dire concrètement que c'est une armée qui n'a pas de mémoire. qui a une très courte mémoire. Et donc des vétérans du Liban, ben finalement, il n'y avait plus beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup dans cette armée. Et donc la connaissance qu'il pouvait avoir du Hezbollah, il ne l'avait plus intimement, je dirais. Et puis ceux qu'il avait étaient encore sur la posture des années 90, où c'était un mouvement de guérilla, etc., qui n'avait pas encore complètement, c'était pas transformé, qui n'avait pas mis en place toute sa structure défensive, notamment dans le sud. Donc il y avait une vision qui était, les faits, les données étaient là, mais la compréhension de l'évolution du Hezbollah était incontestablement erronée de la part des Israéliens.
Oui, parce que le plus impressionnant, c'est que le Hezbollah est organisé comme avec une vraie infanterie, une artillerie. Alors, ils n'ont pas les moyens aériens, mais vous expliquez qu'il y a tout un réseau de tunnels. Mmh. Vous parlez d'une armée fantôme à ce niveau-là. Bah,
c'est une armée qui s'est adaptée à la menace aérienne, d'abord, enfin à la menace des frappes à distance. Donc on l'a dit au début, hein, la grande force des Israéliens, c'était leur capacité de feu à distance, comme la plupart des armées occidentales maintenant, hein, armée américaine en premier lieu. Et donc ils ont inventé un modèle adapté à cette menace. Et face au ciel, ben, il y a une autre troisième dimension, c'est le sous-sol. Et donc stratégiquement, ils ont conçu un modèle de force avec un bouclier et une épée, si vous voulez. Le bouclier, c'est cette structure défensive, décentralisé avec des réseaux souterrains, des sections, enfin de tous les villages qui sont organisés, des milices locales et des cellules qui sont chargées de tenir une petite zone de terrain, à la manière un peu des Finlandais par exemple pendant la guerre contre les Soviétiques en 1940, qui était organisé de cette façon, à la manière aussi de ce qu'avaient proposé certains dans les années 70 pour je pense au commandant Brossolet en France, qui avait proposé une structure identique pour les forces françaises en Allemagne. Donc une structure complètement décentralisée, parfaitement adaptée, incrustée dans le terrain, cachée, qui a un réseau souterrain qui est extrêmement sophistiqué. Et puis l'épée. Donc l'épée, c'est cette force de frappe de roquette qui est, pour le coup, qui est stratégique. C'est-à-dire qui n'est pas employée contre l'armée israélienne, mais qui est juste là pour frapper Israël. Et d'ailleurs, frapper finalement sans faire beaucoup de dégâts.
C'est une arme qui est non symbolique.
Voilà, c'est une arme symbolique,
médiatique.
Voilà, exactement.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait tout à l'heure des drones, et Marc-Antoine Briand, dans le livre, vous expliquez que les Israéliens, par exemple, vont pas se servir des drones pour faire du renseignement.
Pas tant que ça. En fait, ils ont utilisé notamment les Hermès 450. Ce qu'ils n'ont pas utilisé, j'allais dire, en termes de drones, c'est la capacité de frappe. Donc ils n'ont pas utilisé les drones pour frapper au sol. Il y a eu effectivement quelques drones utilisés, j'allais dire principalement très proches de la frontière, pour surveiller certains villages, notamment le village de Haïta Hachab, qui est le village initial à proximité duquel il y a eu l'embuscade du 12 juillet, et autour duquel le Hezbollah avait organisé un môle défensif relativement important. Donc le drone a quand même été utilisé sous la terme de surveillance. Alors ça n'a pas eu une ampleur comme qu'on a pu connaître effectivement, ou comme on l'a connu, j'allais dire au Mali ou dans d'autres conflits, tout aussi récents, où là c'est un usage intensif, là ça l'a été moins. Je pense qu'en matière de renseignement, là où Israël a surtout péché, ça a été sur le refus d'envoyer des équipes, j'allais dire au sol, j'allais dire traquer le renseignement sur l'ennemi. Et c'est un petit peu, je pense, tout l'origine un petit peu du désastre israélien. Pour revenir sur la notion de plan dont vous parliez tout à l'heure en début d'émission, un plan, il est conçu par des états-majors militaires. L'opération, elle est décidée par le pouvoir politique. Et bien souvent, le plan que vous avez prévu n'est pas du tout celui qui sera adopté par le pouvoir politique, parce qu'il a d'autres contraintes. Et quand vous vous retrouvez qu'un pouvoir politique, je prends le cas de 2006, qui n'écoute pas, enfin qui écoute un peu trop le chef d'état-major des armées israéliennes, qui avait un tropisme pour le tout aérien, qui refuse l'action au sol, parce qu'on a surestimé la surréaction que pourrait avoir l'opinion publique israélienne, qui finalement n'était pas contre intervenir au sol, finalement. C'est peut-être là où a commencé finalement le premier désastre, la première étape de cette défaite israélienne, sur le refus de l'engagement au sol, notamment d'équipes de renseignement, qui auraient pu déterminer des couloirs d'accès au profit des troupes au sol, qui auraient pu déterminer et peut-être se rendre compte tout de suite de l'ampleur du réseau souterrain du Hezbollah. Et je pense que c'est ça, le premier échec, la première étape, c'est celle-là. Après, le renseignement, c'est bien de le collecter. Encore faut-il derrière l'analyser et pouvoir en produire quelque chose qui intéresse les états-majors. Et je pense qu'il y a eu aussi, en matière de renseignement, parce que c'est le sujet dont vous avez parlé au niveau des drones, je pense qu'il y a eu aussi une rupture, j'allais dire, sur le plan du renseignement, au niveau de cette perception de la réalité du terrain. C'est-à-dire, voilà, on a des éléments qui nous arrivent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Quel va être le mode d'action que l'ennemi va privilégier? Et finalement, c'est ce qui a perturbé les états-majors. C'est ce qui... Il n'y a pas que ça. C'est un des facteurs qui les a ralentis dans leur travail. Et qui, bah, lorsque l'action terrestre a été décidée très très tardivement par l'état-major des armées israéliennes, bien finalement, la posture, la nature du Hezbollah était relativement méconnue. Les gens qui allaient partir au sol.
Il y a des moments où vous expliquez que l'armée israélienne est persuadée qu'elle va avoir en face d'elle deux ou trois tireurs dans une tente et en fait ils ont affaire à des blocos qui sont bien défendus. Comment ça se fait que le renseignement là n'a strictement rien? On n'est pas à faillir complètement quoi.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les renseignements israéliens. Tout ça s'est fait un petit peu au cœur de dispositifs des Nations Unies, au passage. Hein. Donc, le Hezbollah a creusé tout un réseau à l'intérieur du dispositif de la FINUL, de la force des Nations Unies, qui n'a pas vu grand-chose. Les Israéliens aussi ont très largement sous-estimé l'ampleur de ces travaux, mais qui ne sont d'ailleurs que qu'un des éléments du système défensif du Hezbollah. Hein. Un autre élément défensif, c'est la redondance des moyens. On en reparlera, mais lorsqu'il s'agit de... lorsqu'ils vont commencer à lancer des roquettes sur le territoire israélien, les Israéliens vont s'acharner effectivement à détruire ces lanceurs de roquettes. Et donc ils vont se féliciter qu'effectivement ils vont détruire beaucoup de lanceurs de roquettes, de les détecter très vite et de les frapper très vite. Mais à part que le Hezbollah avait anticipé cela... Et disposer simplement de moyens très redondants, disposer des milliers de lanceurs très rudimentaires et qu'ils abandonnaient pratiquement une fois qu'ils avaient tiré. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi par l'organisation, qui a été mis en place en l'espace de quelques années. Tout ce dispositif a été mis en place à partir du départ israélien, donc à partir de 2000, donc en 6 ans. Ils ont mis en place, ils ont creusé ce réseau phénoménal, ils ont mis en place tous leurs dispositifs, ils ont acquis un certain nombre d'équipements pas trop lourds. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste une force légère, qui n'est pas liée à une logistique, à des stocks, à des bases, etc. Ils ont des missiles anti-chars, et ça leur sert d'artillerie, ça leur sert à tout un peu. Ça sert contre les chars, évidemment, mais ça sert contre les bâtiments, ça sert contre... Bon. Et ça leur sert d'artillerie, tout simplement. Et face à ça... Un des problèmes, pour évoquer le problème du renseignement, c'est que le tout aérien, le tout frappe à distance, bon, il n'y a pas que les moyens aériens, il y a l'artillerie ici qui frappe, c'est que finalement, on ne sait pas trop ce que ça donne en réalité. Frapper, pour lancer, faire des raids, etc. Bon, quand vous envoyez une colonne terrestre qui va planter un drapeau quelque part, bon, on voit sur la carte, on voit ce que ça donne, on voit quel est le plan incliné de l'histoire, je dirais. Bon, là... On est dans une campagne qu'on appelle systémique, c'est-à-dire on attaque l'ensemble du Hezbollah, on essaie par des milliers, des centaines de raids aériens, des milliers de frappes. Mais après, qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est très flou, en fait, on ne sait pas. Est-ce que le Hezbollah est désorganisé? Est-ce qu'on influe sur leur capacité, sur leur volonté de combattre? On n'en sait rien. Et ça, c'est un des problèmes majeurs de ce type de cette approche à distance. C'est que, bon, et puis, très, très concrètement, sur les écrans de télévision, aux journaux télévisés, bon, vous voyez des frappes. Bon, ok. Et après, so what? On voit pas concrètement ce que ça donne. Et ça maintient un peu les Israéliens dans une sorte d'illusion. Alors, ils ont un résultat concret très net, c'est de la destruction des lanceurs à longue portée. Donc ça, c'était leur premier objectif, et ils réussissent. Mais après, ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres lanceurs, et que ça continue à frapper, et là, ils sont un peu désemparés. Là, il y avait sans doute un moment de bascule, et ils ont décidé de continuer, ils ont décidé même d'en profiter, et pour lancer une grande campagne, mais au bout d'une semaine, ils s'aperçoivent que ils ont lancé des quantités de munitions qui sont absolument phénoménales. Ils ont plus tiré dans cette campagne que contre deux fois plus de munitions que contre les armées arabes pendant la guerre du Kippour, uniquement sur le Liban et sur la région du Hezbollah, qui est un rectangle de 45 km sur 25, hein, c'est tout petit en fait. Donc voilà, les Israéliens se sont étaient dans l'illusion avant le début, et ils y sont restés longtemps, y compris tactiquement.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie. On reçoit ce soir Michel Goya et Marc-Antoine Briand pour leur livre Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée 12 juillet 14 août 2006 aux éditions du Rocher. Alors, effectivement, que, comme vous le disiez, Michel Goya, à partir du 12 juillet, ils vont faire cette attaque qui est quand même disproportionnée. Pourtant, c'est une méthode qui aura bien marché contre les armées arabes. Comment ça se fait que ce rouleau compresseur sur une zone aussi petite, etc., le Hezbollah s'en sort, parce que vous donnez quand même quelques chiffres qui sont assez hallucinants. Il touche pas grand chose. Je crois que c'est 10-15% du Hezbollah va être touché en nombre de victimes, hein, je pense, sur le plan soldat.
Oui, oui. Alors, c'est. Israël va engager contre ce rectangle de 45 sur 25, à peu près, l'équivalent de l'armée de l'air et de l'armée de terre française, au bout du compte, hein, au bilan. Ils vont dépenser une fortune en munitions contre cette... ils vont matraquer toute cette région, et au bout du compte, ça va s'avérer effectivement assez stérile. Même si le Hezbollah va subir des pertes conséquentes, hein, même si dans la valeur absolue ça semble représenter assez peu, mais en valeur relative, parce que c'est pas non plus une armée extrêmement volumineuse, la force du Hezbollah, les pertes sont sensibles. Mais la rentabilité et la rentabilité de l'effort israélien est absolument dérisoire, quoi, très 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 faible, quoi.
Marc-Antoine Briand, sur le changement par rapport à la guerre traditionnelle, c'est les victimes civiles et la disproportion qui est flagrante. Vous expliquez dans le livre le seul projectile sur Canaf aura autant de victimes que 2500 roquettes du Hezbollah. Alors, vous donnez quand même quelques chiffres qui sont incroyables. Ces pertes civiles vont quand même finir par représenter 1183 morts et plus de 4000 blessés, sans parler du million de personnes déplacées. Près de 15 000 habitations ont été détruites ou endommagées. Les infrastructures du pays ont été ravagées. 900 usines et commerces. Et puis, vous parlez que les dégâts vont s'élever à 15 milliards de dollars. Sachant que il y a déjà 30 milliards de dollars. Ça, c'est sur le plan des médias. Enfin, sur le plan militaire, c'est une vraie catastrophe pour Israël.
Bah, quand vous, pour donner une image un petit peu à tous ces chiffres, quand vous faites face à une structure qui s'enterre, comme l'a très bien expliqué le Coel Goya, structure qui s'enterre, qui ne compte pas ses morts, qui ne les dévoile pas, qui ne fait pas de communiqué dessus. Pour rassurer vos troupes qui commencent à perdre confiance en elles, pour rassurer une opinion publique qui commence à douter de la légitimité de votre action, eh bien, vous vous mettez, je dirais peut-être pas à frapper tous azimuts, parce que je pense pas que les états-majors avaient un plaisir à commander ce type d'action, mais vous commencez à manquer de jugement dans le choix de vos cibles. Et vous arrivez à un bilan comme celui que vous venez de donner. Je pense que Tsahal a perdu pied sur les certitudes qu'elle avait de l'ennemi qu'elle était censée rencontrer. Alors après, c'est difficile, c'est facile pour nous aujourd'hui, 7 ans après, de refaire un petit peu l'histoire, évidemment, c'est le but de ce livre, mais je reste convaincu que les états-majors israéliens étaient déconnectés de la réalité. Je reste convaincu que le choix du tout aérien qui était sollicité par le chef d'état-major, donc Dan Halutz, qui a démissionné donc au courant de l'année 2007, donc l'année qui a suivi ce conflit, je pense qu'il y a eu un aveuglement et trop de certitudes. Et c'est cet excès de confiance qui a généré un bilan tel. Alors maintenant, pour reprendre votre deuxième partie de question, qui était sur, donc cette fois-ci, le dispositif militaire du Hezbollah, comme je vous l'ai dit, le Hezbollah ne communique pas sur ses morts. Donc on a une estimation du volume de tués au cours de ce conflit, entre 400 et 600, à peu près. Moi, pour m'être rendu sur place 2 fois, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans toutes les rues du sud du Liban, vous avez des portraits des martyrs en tenue de combat. Donc les gens qu'on présume morts, tués pendant ces événements. Je ne me suis pas amusé chacun des portraits, parce qu'il y en a un certain nombre, ouais, dans toute la zone, puisque je ne pouvais pas aller partout. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, ils ont quand même subi des frappes lourdes. Dans le livre, ce qu'on explique, c'est que l'infanterie du Hezbollah est divisée en 2 grosses parties. Une première très professionnelle, qui est une armée de métier, entre 5 et 6 000 hommes, et une armée de réservistes, de miliciens, qui sont des gens qui ont suivi un petit cursus des formations militaires, des modules, qui repartent chez eux, font leur activité, et qui sont censés, entre guillemets, au coup de sifflet, pouvoir revêtir l'uniforme, prendre le fusil, et essayer d'agir en coordination avec les professionnels. C'est sûr que le volume de tués qui a connu le Hezbollah, je pense que c'était principalement dans sa branche professionnelle. C'est celle qui finalement est quand même relativement difficile à regarnir rapidement. Alors 7 ans après, c'est sûr qu'elle a refait ses forces. Ça, c'est une évidence. Maintenant, Israël a aussi tiré les leçons. C'est quand même une des rares armées à être capable de se mettre à nu et de faire un véritable retour d'expérience d'un conflit. Et je suis sûr qu'elle ne réitérera pas les mêmes erreurs. Ça, c'est une évidence. Maintenant, après, quel plan sera choisi ?
Pascal Essérique, tu avais une question.
Oui, je voudrais faire le lien avec votre prochain livre, Goya, qui doit sortir dans 2 jours, vous nous avez annoncé, Sous le feu. Vous faites le parallèle avec ce qui s'était passé à Mogadiscio, et notamment le retour d'expérience entre l'officier français qui s'appelle Saki de Sam et le général Garrison. D'un côté, le général Garrison qui commande dans son centre d'opération derrière un écran, et en parallèle, un an plus tôt, l'officier français Saki de Sam qui est au cœur de j'imagine que c'est une réflexion qu'on peut faire aussi par rapport à l'expérience israélienne pendant la guerre Israël-Hezbollah.
Oui, bien sûr. Oui, c'est le colonel de Saki de Sam, lui, est au cœur des événements. Il est au milieu de l'unité française, et donc il sent les choses et il prend des décisions au bon moment. Alors que le général américain, lui, commande à distance, on appelle ça des plasma officers, donc avec ceux devant des écrans, et par l'intermédiaire d'hélicoptères avec caméra.
Ça a été immortalisé dans le film
Chute du Faucon Noir
de Ridley Scott.
Et ce qui se passe, c'est que cette vision est déformée. C'est-à-dire que le général Garrison, quand il voit les images, bon, il a le sentiment que ça se passe relativement bien. Mais les gens qui sont au sol se disent, de leur côté, le chef nous voit et il voit que ça va pas bien du tout et il va prendre des décisions. Et en fait, non.
Sauf qu'il y a un temps de retard.
À chaque fois, il y a une déformation, il y a un temps de retard par rapport aux événements.
Par rapport aux événements.
Des événements qui sont où, les éléments tactiques, où la vitesse de décision est toujours quelque chose d'effectivement très important.
Et en fait, l'ivresse technologique amène à ce temps de retard. C'est ça qui
est une déformation.
On a plutôt tendance à penser que la caméra en temps réel implique de pouvoir prendre des décisions en temps réel. En fait, non. Il y a ce décalage par rapport à l'expérience du terrain.
Oui, c'est un certain nombre de biais. Hein. C'est le fait aussi que vous avez de très bonnes informations sur vos forces à vous. Parce que par les GPS, par tout un tas de choses, vous savez où sont vos forces, mais l'ennemi en face, lui, il n'a pas de GPS qui sont connectés à votre réseau, et donc vous avez beaucoup moins d'informations. Mais à force d'être habitué à avoir des informations importantes sur vos forces, vous en venez à croire que l'adversaire fonctionne de la même façon, et au bout d'un certain temps, l'absence de preuve devient preuve de l'absence, et comme il n'y a pas de point rouge en face de vous, c'est qu'il n'y a personne. En réalité non, et les Américains ont été surpris par ce biais notamment un certain nombre de fois en Irak. Et puis ensuite vous avez un effet d'abondance d'informations, hein, c'est-à-dire que
On pourrait croire que, puisque ça se passe en 93, on pourrait croire, quand vous nous avez dit tout à l'heure, que l'armée israélienne certainement aura pris la mesure de cette débâcle. Mais on pourrait croire, depuis 93, il y a eu, les armées occidentales ont buté contre cet état de fait, cette ivresse technologique. On a pu le voir donc à Mogadiscio, puis après en Irak, et puis après contre les Hezbollah. Vous pensez que ces armées occidentales vont pouvoir prendre la mesure, mais finalement non.
Je ne serais pas aussi catégorique. Sans remonter aussi loin que 1993, vous regardez l'exemple un peu plus récent, vous regardez la prise de Fallujah par l'armée américaine, donc au cours de la Seconde Guerre en Irak. Vous regardez un petit peu les batailles de Grozny pour l'armée russe. À chaque fois, ça a commencé par, j'allais dire, une désillusion de la force occidentale par rapport à un ennemi qu'elle avait imaginé, mais qui n'était pas ce qu'elle avait imaginé, et une adaptation tout de suite derrière. Pour 2006, avec Israël contre le Hezbollah, c'est une guerre de 33 jours. Donc votre adaptation, elle est plus que très limitée. Surtout quand le pouvoir politique, lui, derrière, dit on arrête là tout de suite, il y a une résolution qui va arriver, donc vous n'avez pas forcément le temps de vous retourner aussi vite. D'autant plus que le tropisme qui était pris initialement, c'était celui du tout aérien et pas de la force au sol. Donc pour reprendre le cas de Fallujah, les Américains ont pris, après la première tentative, qui s'est passée au départ un échec, mais en tout cas par une, j'allais dire, un recul, le temps de prendre et d'observer, la deuxième bataille de Fallujah a été couronnée de succès parce que les Américains ont pris conscience qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas, entre guillemets, s'empêcher d'avoir des troupes au sol, bien au contraire, il fallait avoir une empreinte au sol forte, des unités qui allaient faire un rouleau compresseur de façon méthodique, mécanique, sans laisser finalement de place à l'ennemi d'être dans le dos, et ça a pris plusieurs semaines, mais la bataille a été gagnée. Et finalement, on pourrait presque faire un parallèle, alors toute proportion gardée, avec ce qui s'est passé au Mali dans la bataille de l'Adrar, où les unités françaises ont été déployées dans un terrain relativement difficile, température forte, face à l'ennemi qui était déterminé, fanatisé, et au final, c'est pas par les bombes et par les obus qu'on a détruit l'ennemi. C'est par des combattants au sol qui sont allés détruire chacun l'ennemi derrière chacun de ses rochers, méthodiquement, sans laisser passer de résistance. Donc après, je crois qu'on ne peut pas vivre sur des illusions que on peut gagner une guerre qu'avec la force aérienne ou qu'avec une force maritime. On aura toujours besoin de troupes au sol. Et je pense que s'il y a une véritable leçon à retenir parmi beaucoup d'autres, mais une importante sur ce conflit de 2006, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir une force terrestre, j'allais dire, certes aguerri, ça faut avoir connu le feu avant, mais surtout suffisamment dimensionné pour mener ce type d'action. Et attention à ne pas réduire à une peau de chagrin une force terrestre qui, on l'a vu dans les conflits récents, pourrait avoir à mener ce type d'action.
Pascal, c'est vrai. C'était juste une précision, vous parliez de Fallujah. 10 ans plus tard, Fallujah est aux mains aujourd'hui d'Al-Qaïda. Voilà, c'était. Je ferme la parenthèse.
Tout à fait.
Vous parliez tout à l'heure de ce revers militaire. On parlait de ce revers militaire qui est 2006, mais enfin, il y a eu déjà 1973 où Israël a été surpris. Par contre, il y a une capacité effectivement à s'adapter très rapidement. Pourquoi en 2006 ils n'arrivent pas à s'adapter?
Alors.
Michel Goya, allez-y.
Bon, allez. Oui, effectivement, ce qui se passe, c'est que en 73, on a un rebond en quelques jours. Il y a un échec humiliant dans les premiers jours, surtout face aux Égyptiens. Et il y a une capacité d'innover très vite et de trouver de nouvelles méthodes, de restructurer les unités, etc., qui permet d'arracher la victoire in extremis, je dirais. Là. Même si ça a duré moins longtemps que
le match nul ou le match nul, ça dépend.
Oui, bon, oui. Si vous voulez, bon, c'est vrai. Mais voilà, il y a une capacité de rebond très nette de la part des Israéliens. Là, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que les Israéliens, depuis un certain nombre d'années, avaient perdu. S'étaient spécialisés, tout simplement, dans la petite guerre dans la gestion des territoires palestiniens, et c'était voilà, ils faisaient des missions de police, du checkpoint. Encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une armée qui a pas beaucoup de mémoire. Donc les savoir-faire, s'ils ne sont pas entretenus, ils se perdent très vite. Les savoir-faire tactiques sont complexes.
Oui, parce que vous expliquez que c'est dans la presse israélienne elle-même qui parle de ça, qui dit en fait on n'a plus une armée, on a affaire à une grande force de police.
Voilà, c'est-à-dire qu'on considérait qu'on n'avait plus forcément besoin de tout ça. On est dans une posture de réduction du budget et avec des ressources qui sont accaparées par cette technologie qui est relativement coûteuse. Hein, donc tout ça coûte très cher. Un seul avion F-16... le F-16I, donc, est le dernier modèle de chasseur-bombardier. Le prix avec cet avion, vous pouvez payer une année complète d'entraînement aux réservistes israéliens avec un avion. Mais donc voilà, le choix a été fait. L'armée israélienne, c'était fractionnée en réalité entre une armée de haute technologie, force aérienne, force spéciale, une armée de terre qui a perdu beaucoup de ses savoir-faire. Et des réservistes, faut pas oublier que c'est une composante essentielle de la plupart des combattants, en réalité étaient des réservistes israéliens qui, elles, avaient complètement perdu tout savoir-faire de combat de haute intensité, tout simplement, quoi. Et donc, face à la surprise, ben là, c'est des compétences que l'on n'a pas, c'est très dur de les inventer tout de suite sous le feu, quoi. Alors que en 73, on restait quand même dans un schéma, enfin, des choses que les gens connaissaient, quoi.
Au-delà
du fait qu'effectivement cette armée avait perdu, enfin n'avait pas la mémoire, n'avait pas les conséquences, est-ce que la qualité humaine du réserviste était la même qu'en 73? On peut se faire assez facilement l'image d'Épinal. 73, c'était encore les pionniers, il y avait le rêve, et puis bon, 2006, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans la société de consommation, ils n'échappent pas peut-être moins que les autres, mais c'est un peu le sens de ma question. Il n'échappe pas à la douceur émolliente du confort mondialisé. Donc, est-ce que le réserviste semble, soit techniquement, soit psychologiquement, de moins bonne qualité ou de moins bonne résistance que précédemment? Est-ce qu'on sait le dire, ça?
Bon, je dirais qu'en 73, on se posait déjà la même question. On disait, oula, nos réservistes, les années 70, ils n'ont plus rien à voir. Ils sont contaminés par le peace and love et ils sont pas, ça n'a rien à voir avec les pionniers des années 40, des années 60, qui eux étaient des très durs, quoi. Bon, voilà, et ces gens-là, ben, ils se sont battus comme des lions. La 7e brigade qui était sur le Golan a terminé les deux premiers jours avec 90% de pertes. Je méfie un petit peu, si vous voulez, de ce constat. Je pense que les réservistes israéliens étaient des gens courageux qui étaient prêts à faire leur devoir. On n'est pas dans le même contexte. En 73, on était là, l'Israël jouait un peu sa survie.
Oui, absolument.
Là, c'est pas tout à fait la même chose.
J'étais pas sur un constat, hein, que je sois bien compris, mais comme vous avez dit qu'il y a une forte capacité de remise en cause et de retour d'expérience, je voulais savoir si dans leur retour d'expérience, ils avaient
l'idée d'une armée professionnelle,
la valeur du réserviste de la classe 2006.
Alors, ce qu'ils ont surtout constaté, c'est que ces gens-là étaient moins bien équipés que les gens du Hezbollah contre qui ils se battaient, que leur équipement n'avait pas été renouvelé, qu'on leur avait pas donné l'entraînement suffisant. C'est surtout ça qui a suscité la colère plus que la valeur des hommes, quoi. Très très clairement, quoi.
Oui, parce que la première chose que vous dites, c'est que le retour d'expérience, c'est que l'armée israélienne s'est remis à acheter des gilets pare-balles, à acheter du matériel pour sa propre infanterie, ce qui n'était pas le cas, et on pensait qu'ils étaient. On avait ce mythe du char israélien qui va être un peu le symbole, ce char israélien qui est formidable, qui est dans les villages ne passe pas. Hein,
Disons qu'en fait, si vous voulez, pour le plan des réservistes, disons qu'à au commencement de l'été 2006. Les réservistes israéliens sont moins nombreux que par le passé, puisque des réformes sont venues, ont réduit les fenêtres, j'allais dire, d'âge, permettant d'avoir un volume de force plus conséquent. C'est quand même important, hein, même si tout conflit ne repose pas que sur un calcul numéraire, c'est important d'avoir un volume suffisant.
D'âge et de problèmes de religion aussi.
Maintenant, je ne pense pas que c'était le problème le plus flagrant pour 2006.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, pour notre police, c'est peut-être plus justifié. Là, ça l'était un peu moins. Après, effectivement, le défaut d'équipement, hein, des réservistes n'avaient pas de gilets pare-balles. Je crois que c'est près de 30 000 ou 40 000 gilets qui ont été commandés début 2007, avec un nouveau budget plus conséquent suite à ce conflit. Et ensuite, vous avez un défaut d'entraînement total, hein, c'est-à-dire que les unités de réservistes ne s'étaient pas entraînées, certaines, pendant plus de 3 ans. Ça pose quand même un problème. Au-delà de cet entraînement pur, pas de coordination avec les unités professionnelles. Donc on se découvre sur le terrain au moment où on doit faire le coup de feu ensemble. C'est aussi compliqué. Donc je pense qu'il y avait toute une politique d'emploi du réserviste qui n'avait plus lieu dans la mesure où, comme vous l'a très bien dit, Koel Goya, l'armée israélienne était surtout axée sur des opérations de police, c'est-à-dire sur des confettis en termes de terrain, avec une supériorité terrible face à un ennemi qui n'est pas du tout le Hezbollah. Dans un territoire conquis, à sa cause, c'était le cas du Sud-Liban, et en plus qui attend et qui s'est préparé à l'ennemi israélien. Donc bon, les réservistes se sont retrouvés dans une situation où en plus, alors certains d'entre eux sont effectivement répandus dans les journaux, vous en parlez tout à l'heure, des journalistes, notamment le journal Haaretz. Certains réservistes se sont répandus en critiques ouvertes, notamment sur l'absence totale d'ordre, sur l'inertie du système et sur le fait que ils attendaient 24-48 heures avant d'avoir un ordre ou un point de situation. Après, je vous dis pas que ça pourrait pas nous arriver, ou arriver à d'autres armées occidentales. Il faut pas forcément jeter la pierre à Tzal. Ce qui est intéressant pour nous, notre niveau, là où on est aujourd'hui au centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre, c'est justement d'avoir conscience de ça et de ne pas se voiler la face et de se poser les bonnes questions pour pas que ça nous arrive. Donc chaque expérience est bonne à prendre. Et pour reparler un peu de Fallujah et Grozny, bon, peut-être qu'il est dommage que Tzal n'ait pas regardé d'un peu plus près ces batailles, finalement 2, 3, 4 ans avant 2006, pour s'en imprégner et peut-être se rendre compte qu'il fallait organiser un petit peu différemment ces unités d'infanterie pour saisir une ville et pas envoyer deux compagnies avec des Merkava qui ne peuvent pas manœuvrer, comme vous l'avez très bien dit. C'est pas facile. C'est donc notre posture aujourd'hui et voilà, c'est une posture pas critique, mais en tout cas qui permet de mettre l'accent sur ce qu'il ne faudra pas faire à l'avenir.
Le 14 août 2006, le Premier ministre Olmert annonce une victoire de Sahal. Hassan Nasrallah annonce aussi de son côté la victoire. On sait maintenant aujourd'hui que le Hezbollah, c'est symboliquement et politiquement a une vraie victoire. Mais quand vous avez analysé les deux, est-ce que vous en êtes arrivé à la même conclusion ?
Oui, alors c'est... C'est effectivement, on est
qui a gagné le match.
c'est ma question. Écoutez, si moi je boxe contre Mike Tyson et que finalement je réussis à tenir un round, je considérais que finalement j'ai gagné, quoi. J'ai une victoire morale. J'ai résisté à Tyson. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été, malgré le rapport de force extrêmement défavorable, le Hezbollah a résisté à Tsahal. C'est même le premier cas dans l'histoire. Donc ils ont défié, ils ont tenu tête à Tsahal. Donc symbolique. C'est extraordinairement fort. C'est la première victoire du monde arabe contre Tsahal, véritablement, au cours d'une guerre. Donc la victoire est symbolique et pour eux. Côté israélien, on peut dire que finalement, on notera que depuis 2006, le Hezbollah n'a plus attaqué Israël. Et donc finalement, que les Israéliens ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la cessation de la menace à leurs frontières. Donc le gain. Maintenant, il est évident que tout le monde, malgré ce qu'a pu dire le Premier ministre ou le chef d'état-major des armées, tout le monde a compris que c'était un échec, évidemment. Et que la capacité de dissuasion, la capacité de dissuasion de Tsahal, ça ne trouvait très largement amoindri, alors que le but, c'était justement de la redémontrer à nouveau. Donc oui, c'est le Hezbollah qui a gagné. Mais on reste effectivement dans un conflit un peu particulier où on n'occupe pas le terrain de l'autre. C'est difficile de savoir, il n'y a pas de victoire décisive, il n'y a plus de bataille décisive, je veux dire, dans ce conflit. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Israël n'a pas réussi à obtenir cette décision, c'est Israël qui a été vaincu. Oui.
Est-ce qu'on n'a pas, on en parlait hors antenne tout à l'heure, sur il n'y a pas eu un mythe de cette armée israélienne, même je dirais du côté des armées occidentales, il y avait une sorte d'admiration de cette armée, de ça. Est-ce que vous avez été quand vous avez travaillé sur l'armée israélienne pour ce livre, est-ce que vous avez été surpris par effectivement ces incapacités à se réformer ou est-ce que c'était déjà dans l'air depuis un moment?
Israël, il faut pas oublier, l'armée israélienne, c'est une armée qui a été capable de vaincre trois armées arabes en trois fois deux jours en 67. C'est quand même pas rien, mais c'est une armée aussi qui est soumise à ce qu'ils appellent le balagan, c'est le désordre. C'est-à-dire que c'est une armée qui passe par des justement du fait de sa faible mémoire certainement, qui passe par des phases de moins. Début des années 50, c'est l'armée israélienne a des difficultés. La campagne 56 dans le Sinaï, elle n'est pas exempte de défauts. Puis après, ça se réforme, ça rebondit très vite. Et on a la guerre des six jours. Entre la guerre des six jours et le début de la guerre du Kippour, on a une nouvelle phase de balagan. Finalement, on s'endort un peu sur les lauriers, et puis on prend une claque. On est très surpris dans les premiers jours du conflit, alors que les Égyptiens en particulier, eux, se sont adaptés. Et donc, il y a des phases comme ça, c'est très cyclique dans l'armée israélienne. Il y a eu une phase à nouveau un peu d'illusion, et Israël a quand même rebondi par la suite. Il y a eu tout un travail de retour sur soi, il y a eu tout un travail d'analyse, de retour d'expérience, d'achat d'équipement, de remise à l'entraînement des unités, et le conflit, l'opération suivante contre le Hamas, l'opération Plan Durci, fin 2008, a tiré les enseignements. Alors, l'adversaire n'est pas tout à fait le même, incontestablement, mais les choses sont quand même nettement mieux passées pour l'armée israélienne.
Marc-Antoine Brion, ça va être ma dernière question, il nous reste quelques minutes. Quand on fait ce travail, c'est un travail qui... est-ce que c'est quelque chose qui va...
qui va servir par exemple à l'armée française. Est-ce que le Mali est l'exemple même de quelque chose qui a pris en compte ce genre de guerre et ce genre de conflit qui a été entre Israël et le Hezbollah?
Alors je dirais que toutes les armées qui sont, j'allais dire, sur le même modèle que la nôtre, ont des systèmes de retour d'expérience. Donc ces systèmes étudient tout d'abord les conflits dans lesquels nous sommes déployés et les conflits menés par des armées alliées ou pas. Le rôle de ce type de structure, c'est d'identifier des failles, des lacunes, des choses qui n'ont des dysfonctionnements. Après, vous avez trois leviers sur lesquels on peut agir. Sur un levier en termes de doctrine d'organisation, c'est-à-dire est-ce que ce que nous avions pensé a bien fonctionné? Si oui, est-ce qu'on est bien organisé ou pas? Est-ce qu'on a eu, et c'est le deuxième levier, des failles en termes d'entraînement, de formation de nos cadres? Et le dernier levier, c'est est-ce que nous sommes bien équipés pour mener ce type de conflit? Donc en France, on a des structures comme celle-là qui réfléchissent, on appartient à l'une d'entre elles. Il y en a d'autres. Je pense que l'institution n'a pas attendu le livre de Michel Goya, de Marc-Antoine Briand en 2014 pour réfléchir là-dessus. Hein. L'étape avait été initiée dès la fin de l'année 2006, début 2007, avec notamment un cahier auquel vous avez participé, mon collègue, sur justement ce conflit et sur d'autres. Le but pour nous, c'est pas d'être parfait, c'est de ne pas réitérer les erreurs commises par d'autres. Je pense que ça, c'est un point important. Vous parlez de notion de victoire tout à l'heure, pour revenir dessus. Israël a perdu parce qu'elle n'a pas gagné. Et le Hezbollah a gagné parce qu'il n'a pas perdu. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, nous, l'interrogation, et c'est ce qu'on met notamment dans la conclusion, qu'on doit mener, c'est pas forcément sur en termes de structure, d'entraînement ou d'organisation. C'est aussi sur qu'entend-on par la victoire. Qu'est-ce qu'une victoire aujourd'hui? Voilà. Au sens classique, est-ce que face au, finalement, depuis 20 ans, à l'ennemi que nous avons face à nous, qui ne sont pas des ennemis étatiques, mais des ennemis non étatiques, est-ce que la victoire est durable? Est-ce que, comme un match de foot, il y a un arbitre qui siffle avec un gagnant qui a obtenu ce qu'il voulait, un perdant qui a reconnu sa défaite? Non.
Oui, l'exemple du Mali est, avant même de parler de la Centrafrique, puisque les jeux ne sont pas encore faits, mais l'exemple du Mali, me semble-t-il, est un bon exemple. Alors d'abord, c'était une démonstration à point nommé pour l'armée de terre, me semble-t-il. Et dans ces moments de raréfaction des moyens, c'était une démonstration bienvenue. Mais on voit bien que au-delà de la performance technique, tactique des soldats, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que fait-on de cette victoire militaire? On voit bien que la diplomatie française n'a pas résolu la question des Touaregs et la question de l'intégrité du territoire malien, et que tant que cette question-là n'est pas traitée, la victoire aura sans doute été belle, mais c'est trop tard, c'est trop tôt pour savoir si c'est une victoire définitive ou pas. La Centrafrique, c'est encore autre chose, me semble-t-il, mais sans vouloir être oiseau de mauvais augure, on a l'impression que là aussi, la dimension politique et diplomatique, et notamment peut-être celle du renseignement, a largement sous-estimé la situation. Mais
ça, on verra ça dans un prochain livre de Michel Goya et de Marc-Antoine Briand.
Mais la Centrafrique, c'est aussi une bonne démonstration pour l'armée de terre. Donc il y a quand même des opérations. Les marins, par exemple, c'est moins bon pour leur budget, tout ça.
Voilà. Je ne crois pas que Michel Goya et Marc-Antoine Briand vont contredire sur
C'est pour faire un peu de démagogie, enfin, entretien.
Donc, je rappelle le titre de votre livre, Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée, 12 juillet, 14 août 2006. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Michel Goya. Merci beaucoup, Marc-Antoine Briand. On va faire une légère pause et puis on va vous retrouver pour l'actualité européenne.
Je ne veux pas vous couper, mais je tiens à souligner que on a obtenu la préface, donc pour ce livre, de Joseph Maïla, qui est un éminent spécialiste du Proche-Orient, qui a été donc professeur dans nombreuses universités, directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères. Et je pense que, c'est un éclairage d'un diplomate sur un conflit militaire qui apporte aussi une autre vision de ce que peut être la guerre que nous, militaires.
Et puis, peut-être, mon cher Pascal Essery, vous allez donner les
Il sort dans 2 jours.
Bah oui, mais on n'a peut-être pas le droit d'en parler, alors.
Si, 2 jours.
Si, on y va.
Donc, c'est Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail. C'est donc le prochain livre de Michel Goya, Comment des hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Et ça paraît aux éditions Taillandier. Voilà.
Voilà, une légère pause et puis on se retrouve avec l'actualité européenne.
Voilà, nous sommes de retour dans ces chroniques de l'éveil Europe pour cette deuxième partie. Mon cher Philippe, vous allez nous faire l'actualité européenne. Si vous avez besoin de quelques secondes, mais ça y est, vous êtes prêt?
Toujours prêt.
Et on part où?
Depuis
ma BA. En ce début d'année 2014.
Eh bien, écoutez, la moitié de la presse considère que l'année 2013 est probablement l'année de la Russie, et l'autre moitié considère que ça va être l'année 2014. Donc, comme on est pratiquement à la césure, je vais vous parler de la Russie. mais je vais vous en parler. Je vais essayer de faire un panorama de diverses sujets. Quelle fin d'année quand même. Quelle fin d'année relativement faste pour la Russie, pour la Russie. Et son président. Je passe sur le rôle réoccupé à l'occasion de la crise syrienne. Je passe sur la victoire, là pour le coup, stratégique, diplomatique, économique, d'attraction sur le cas ukrainien. On en avait déjà un peu parlé lorsque nous nous sommes déjà vus il y a 4 semaines. Victoire également sur le terrain, on va dire, politique au sens large. Je rappelle que 2013 a été l'occasion, notamment lors des élections municipales de Moscou, de faire vivre une élection totalement pluraliste, démocratique et reconnue comme telle par les observateurs, qui ne manquent jamais d'être les pires censeurs qui soient sur la démocratie en Russie, et que même cette élection totalement ouverte n'a même pas permis à l'opposant nouveau chouchou des médias, Alexei Navalny, de faire des scores faramineux. Et puis la dernière opération, c'est bien évidemment cette opération de charme à l'aune à quelques jours, à un mois de l'inauguration des JO de Sotchi, avec les mesures de grâce et d'amnistie permettant de libérer en vrac et dans le désordre Mikhail Khodorkovsky, les Pussy Riot et les excités de Greenpeace. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes, et puis quand même il y a un drame, et je vais en parler 30 secondes, ce sont les attentats terroristes à Volgograd qui ont fait 31 morts à ce jour. Je voudrais m'arrêter 30 secondes sur cet élément-là, parce que toujours intéressant de voir comment la presse traite ce type d'événement. Et je voudrais saluer fugacement la mémoire de ces 31 victimes, parce que j'ai l'impression qu'elles sont mortes un peu deux fois. Elles sont mortes la première fois dans le drame qu'a consisté cet attentat et donc ces vies détruites. Et elles sont mortes une seconde fois parce que, me semble-t-il, on leur a largement dénié la commisération due à toute victime du terrorisme, qu'il soit islamique ou autre. Quand on voit... à un an d'écart, quand on voit le traitement médiatique des attentats pendant le marathon de Boston, ouais, qui ont été commis d'ailleurs par quelqu'un qui était probablement frère de sang de ceux qui ont commis les attentats de Volgograd. Hein. Vous vous souvenez que le criminel de Boston était d'origine tchétchène, avait d'ailleurs été signalé comme tel par le FSB aux Américains, qui avaient dit, écoutez, monsieur, on est des gens sérieux, on s'en occupe, merci. Bon. Et donc aujourd'hui, ce qui est tout à fait frappant, c'est que la tonalité de la presse, surtout de la presse française, au lieu de dire, ben oui, en fait, finalement... les Russes sont comme nous, ils ont les mêmes ennemis que nous et ils ont les mêmes types de menaces que nous, et quelque part nous sommes un peu tous des Russes, on va pas aller jusque là, mais nous avons les mêmes difficultés. On a dit, ah, vous voyez bien le Poutine qui roule des mécaniques et qui croit qu'il a tout sous son contrôle. Eh ben non, on lui tire dessus. Bon. J'ai apprécié d'ailleurs que nos invités de la séquence précédente ont fait en parlant des armées occidentales, des leçons desquelles il fallait penser, on parlait de Fallujah et de Grozny, et donc eux ne se trompent pas dans la solidarité des différentes armées dont nous parlons. J'ai apprécié ce clin d'œil, bien évidemment. Donc, je voulais, petite parenthèse, pour souligner qu'il va falloir effectivement choisir un jour de savoir si nous faisons avec, sans ou contre les Russes. Je pense que personne n'imagine faire contre les Russes, mais la question, c'est avec ou sans. Et la manière dont nous avons traité le cas Volgograd, mais donc la manière dont nous sommes capables de traiter les conséquences d'attentats terroristes, me semblait devoir être noté.
Vous remarquerez qu'on a presque on s'est dit que c'était à cause de ces Jeux Olympiques que M. Poutine voulait qu'il y ait eu un attentat, et que s'il n'avait pas voulu mettre autant de millions dans les Jeux Olympiques, il n'y aurait pas eu d'attentat. C'était un peu la logique que dans la presse française.
Hein. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer. Je ne crois pas que je pense qu'il est toujours plus facile, et là, je avec la présence de nos experts dans le studio, je pense qu'il est toujours plus facile de faire des dégâts sournoisement dans des positions faiblement défendues que de prendre d'assaut une forteresse en rase campagne. Donc je pense que les éminentes troupes, ce qui reste en tout cas des troupes terroristes, risquent assez peu de chercher à frontalement s'attaquer à Sotchi. Donc je pense qu'on peut imaginer que ces jeux se passent au moins sur le périmètre du village olympique dans de bonnes conditions. On n'est bien évidemment pas à l'abri de tout ce qui devra être, ce qui voudra être entrepris pour déstabiliser cette victoire politique et cette rénovation du complexe de Sotchi, et puis cette victoire médiatique que sera l'organisation de ces jeux.
Je crois qu'on avait eu un peu la même chose à Atlanta, hein. Il y avait eu une sorte de un petit attentat qui avait fait la panique totale sur tout le reste des jeux à ce moment-là, quoi.
L'autre sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est que c'est l'amnistie sur Mikhail Khodorkovsky et les Pussy Riot. Alors, d'abord, pour le clin d'œil, parce que vous savez qu'il y a une journaliste spécialiste de la Russie au journal Le Monde qui s'appelle Marie Jégo. Alors Marie Jégo, c'est simple, elle ne fait que du à charge. Alors Marie Jégo, il faut bien comprendre, c'est une analyste... Il faut voir, hein. Il y a du métier. Alors quand Poutine a annoncé qu'ils allaient libérer les Pussy Riot, il faut lire l'article de Marie Jégo, qui dit il va libérer les Pussy Riot, mais il irait quand même pas jusqu'à libérer Khodorkovsky, hein. Là, boum, le lendemain, Khodorkovsky. Bon. Je cherche les excuses de Marie Jégo et savoir si elle était mutée sur la Terre Adélie pour couvrir le désengagement du bateau russe des glaces, mais visiblement elle sévit toujours au même endroit. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que donc on a fait toute une histoire sur ce Khodorkovsky. Je voudrais rappeler parce qu'il n'y a pas que l'armée israélienne qui a peu de mémoire, hein, nos auditeurs, nous-mêmes, nous avons peu de mémoire. Je voudrais quand même rappeler qui est Mikhail Khodorkovsky, qui nous paraît aujourd'hui le parangon de toutes les vertus démocratiques et occidentales réunies, et dont Mikhail Khodorkovsky, dont chacun, enfin principalement les journalistes occidentaux et puis quand même 3 ou 4 Russes de temps en temps, espéraient qu'il pût être le successeur de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Mikhail Khodorkovsky est quelqu'un qui s'est enrichi dans des conditions particulièrement douteuses, à l'époque de ce grand chambardement, de cette grande anarchie de l'ère Yeltsin, de cette Russie ayant littéralement explosé sous les coups de boutoir du FMI, des théories, voire théologies libérales, et puis de l'effondrement de ce pouvoir central dans les circonstances que l'on connaît. Khodorkovsky est quelqu'un qui, à force d'intrigues, a réussi via la création d'une banque qui s'appelait la banque Menatep, qui a réussi à se faire octroyer un certain nombre d'entreprises, dont le fameux pétrolier Yukos. Je pourrais passer une demi-heure à vous raconter les casseroles financières que Khodorkovsky a au derrière, y compris son accointance avec un certain nombre de figures mafieuses, puisque beaucoup de ses opposants en affaires ont été liquidés ou ont connu diverses fortunes, les emmenant à l'hôpital ou à la morgue.
Son chef de la sécurité a quand même été jugé pour meurtre.
Absolument. Absolument. Et jugé et condamné. Et puis, en 2000, Khodorkovsky considère qu'il a fortune faite et il change complètement de braquet. Il occidentalise son dispositif. Il confie la gestion des comptes de ses entreprises à McKinsey. Il fait rentrer les administrateurs américains au capital. Et il joue sa carte contre celle de la verticalité du pouvoir qui est en train de se reconstituer. Et la première chose que fait, la plus importante que fait Khodorkovsky, c'est de chercher à négocier seul avec le pouvoir économique qui était le sien et qui était aussi fort que le pouvoir étatique de l'époque. Il essaye de négocier seul avec la Chine des voies d'évacuation du pétrole sibérien, en contradiction avec les intérêts géostratégiques de la Russie. Et donc c'est cet homme-là qui c'est ainsi que sa disgrâce est
sous l'époque de Helsin, hein, principalement.
On est déjà sous Poutine. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que nous avons quelqu'un dont nous savons aujourd'hui qu'il s'est très frauduleusement enrichi. Il a cette réputation d'oligarque véreux qui fait que comme Gorbatchev, comme notre champion d'échecs préféré et comme les Pussy Riot, ces gens-là n'ont en fait d'écho que sur les plateaux de télés occidentaux, et que si Khodorkovsky, entre autres, refuse de reprendre un flambeau politique, c'est qu'il sait très bien qu'il est grillé, si j'ose dire. Ce qui est intéressant, c'est que on nous explique qu'on a là une espèce de bagnard, enfin c'est un mélange de Jean Valjean, le capitaine Dreyfus, je ne sais pas quel bagnard absolu, sauf que Khodorkovsky, on se rend compte que, enfin ça fait juste 5 ou 6 ans qu'on est régulièrement au courant de ce qu'il fait, qu'il envoie des tribunes pour dire ce qu'il pense du monde entier, enfin voilà quelqu'un qui a une captivité particulièrement ouverte sur l'extérieur. Je ne connais pas beaucoup de prisonniers de droit commun ou de prisonniers politiques qui puissent publier des éditoriaux dans le Financial Times ou dans les grands journaux occidentaux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Khodorkovsky lui-même, au grand dam des journalistes, a quand même été obligé de reconnaître que le Kremlin avait eu une attitude particulièrement loyale vis-à-vis de sa famille qui avait été épargnée par les poursuites. Ce qui est intéressant, quand vous faites la conférence de presse de Khodorkovsky, donc qui déçoit tout le monde, puisqu'en fait Khodorkovsky dit non mais moi de toute façon j'arrête. Alors c'est touchant puisqu'il dit en fait j'ai assez d'argent pour vivre sans travailler. Je ne sais pas exactement combien, parce que c'est ce que j'avais sorti de Russie. Je ne sais plus. Il dit, je ne sais pas combien il y a, mais je pense que ça va. En tout cas, évidemment, on a compris le deal, nous sommes sur Radio Courtoisie, l'accord avec le Kremlin, c'est nous te laissons sortir, dépense ton argent comme tu le souhaites, mon ami, mais les opérations sont terminées. Khodorkovsky ne souhaite même pas recouvrer en justice ses anciens actifs.
Donc il ne va pas nous écrire un archipel du Goulag 40 ans après, quoi.
Ah, je pense qu'au-delà de la volonté, il faut aussi un petit peu de talent. Et semble-t-il, le talent principal de Monsieur Khodorkovsky, c'est pas la littérature, c'est plutôt la combine. Mais il faut tout pour faire un monde, mon cher Patrick. Quant aux Pussy Riot, bien évidemment, vous avez vu là aussi que elles ont largement remisé leurs ambitions. Et donc, il y a là, de la part de Poutine, en grand joueur d'échecs que sont souvent les dirigeants russes, il y a à la fois donner à l'Occident ce qu'il demande en élargissant les icônes qui sont aujourd'hui totalement dévaluées et qui, de facto, ne représentent pas grand risque. Il y a une dernière bonne nouvelle qui a intéressé la Russie et qui nous intéresse tous. Vous savez que chaque émission de janvier, je me permets de communiquer à nos auditeurs les chiffres de la démographie russe de l'année. C'est un peu mon truc. Hein, comme on n'est pas nombreux à le faire, moi je le fais. Voilà. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que il y a quelqu'un qui j'ai été devancé. Alors j'étais très vexé.
Ah oui.
J'ai été devancé parce qu'il y a eu un papier de Favilla dans Les Échos. Vous savez, Favilla, c'est l'éditorialiste qui signe ainsi. Donc je ne sais pas qui c'est son pseudo qui signe dans Les Échos. Il a fait un papier dans Les Échos du 2 janvier. Alors que moi je me réveille, je remettais toujours tout juste de mon réveillon caviar vodka. Non, j'exagère. Et donc il a fait un papier pour dire en gros, alors le tropisme habituel qui a dit oui, Poutine fait le malin, il réussit plein de trucs. Mais enfin, quand on regarde sa démographie, on voit bien que ça n'avance pas, et que si c'est faire tout ça pour finir avec un pays en décadence démographique, eh ben vraiment c'est pas malin. Sauf que alors Monsieur Favilla, qui est un homme sérieux, éditorialiste aux Échos. On n'est pas dans 20 minutes aux Échos. Alors, il nous chiffre il nous cite le taux de fécondité en Russie. Il nous dit qu'il est d'1,4 enfants par femme. Il a raison, sauf que c'est le chiffre de 2007. C'est le chiffre de 2007. Les chiffres russes, c'était effectivement 1,4 en 2007, 1,7 en 2012, et il est estimé pour 2013 à 1,75. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que 1,75, ce sont des chiffres qui est d'abord largement supérieur à celui de l'Union européenne en moyenne, hein, qui est de 1,57. Enfin, tout ça sont des chiffres absolument déprimants, on est d'accord. Hein, je rappelle à nos auditeurs qu'ils savent très bien que le seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1 enfants par femme. Et que les mauvais élèves de l'Union européenne sont dans des situations bien plus critiques que la Russie. Pardon pour ces chiffres déprimants, mais 1,23 en Hongrie, 1,3 en Pologne, 1,36 en Allemagne ou en Espagne. De la même manière, Favilla se trompe aussi sur le nombre d'habitants en Russie. Il dit 140 millions, en fait ils sont 144 millions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe, et l'année 2013 semble le confirmer, on observe une triple tendance sur la démographie russe. Donc la première, je l'ai indiqué, c'est cet accroissement du taux de fécondité. qui devrait se tasser puisque nous allons arriver à des classes creuses, puisque nous allons arriver à des hommes et femmes en âge de procréer, enfin surtout des femmes qui correspondent aux générations qui, sur lesquelles le taux de fécondité était le plus bas. Donc numériquement, le taux peut être meilleur, mais numériquement, ça va quand même se tasser un petit peu sur la partie naissance. En revanche, le deuxième élément lié quand même à l'amélioration du niveau de vie, c'est une baisse significative des décès. Hein, on est en gros sur 2,5 millions de décès en 2000, on va en avoir 1,8 million cette année, donc c'est significatif. Et puis surtout, on a toujours un effet migratoire, un solde migratoire positif, avec beaucoup de Russes qui rentrent dans la mère patrie. On peut songer que la Lettonie, qui vient de rentrer dans l'Union européenne, a perdu 20% de sa population en 5 ans. Et on sait que les pays baltes, pour des raisons historiques, font partie de pays qui ont été largement colonisés, pour le coup, par les Russes, qui avaient dépeuplé les autochtones. Et les pays baltes, ayant été particulièrement sévères dans l'attribution de leur nationalité, pour des raisons qu'on peut comprendre, et notamment créant ce statut d'apatride qui fait tant débat entre les Russes et les pays baltes, il y a donc bref, il y a une dynamique démographique avec une agence, un programme de la Fédération de Russie pour le retour des Russes qui résident à l'étranger, qui fonctionne bien, avec 50 000 personnes par an, et donc on est beaucoup plus sur des tendances. Vous rappelez que les grandes tendances, c'est de dire de 140, la Russie passera à 130 millions d'habitants d'ici 2030. Bah aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une anticipation à 146, voire 150 millions d'habitants en 2030. Et me semble-t-il, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'abord parce que c'est toujours bien d'avoir plus d'Européens que moins. Deuxièmement, ça veut dire que quand on a une volonté politique qui s'organise sur une politique nataliste, eh bien, ma foi, on arrive à des résultats. Il semble que les Espagnols s'en soient préoccupés, puisque vous avez vu les récentes tentatives du gouvernement espagnol pour inverser des lois très complaisantes sur l'avortement. Autre coup de chapeau, rien à voir, mais puisqu'on est dans la région, puisque ça m'amusait, je voulais un petit coup de chapeau au président, au premier ministre japonais. J'ai perdu mon papier, mais vous avez vu Paris, Berlin, Moscou. Si on se prolonge un peu, oui, on
n'est pas loin de Tokyo. Hein,
c'est entre le Comintern et le pacte d'acier, c'est comme vous voulez. vous avez vu que peu avant Noël, le premier ministre Abe s'est rendu dans le fameux sanctuaire de Yakuzuni. Vous savez, c'est la tarte à la crème de la vie politique japonaise, puisque le sanctuaire de Yakuzuni, c'est le sanctuaire qui est une espèce de nécropole symbolique pour tous les soldats japonais morts dans la Seconde Guerre mondiale. Mais, Oresco référence, il y a dans cette nécropole la mémoire de 14 militaires japonais ayant été condamnés comme criminels de guerre par les tribunaux américains au nom de la justice, des droits de l'homme et de tout le reste. Et alors, systématiquement, l'Extrême-Orient est en émoi, puisque dès qu'un Japonais met les pieds dans le sanctuaire, c'est forcément une ode aux militaristes. Alors les Chinois sont furieux, les Coréens sont très énervés, ceux du Sud, ceux du Nord, ils font autre chose, ils pensent à autre chose. Et là, pour le coup, c'est les Américains qui sont particulièrement en train de coincer, puisque ceci se passe bien évidemment dans le contexte qu'on avait décrit il y a 4 semaines, oui, avec ces volontés hégémoniques de la Chine de recouvrer les fameuses îles Senkaku ou Daoyu, suivant du côté de la mer de Chine que l'on se situe. Et il y a là, effectivement, du coup, de la part du Premier ministre Abe, une volonté de ne pas céder, de montrer que le Japon ne cédera pas. On a déjà abordé dans cette émission les modifications à la Constitution que le Japon a engagées, les politiques de réarmement avec leurs conséquences budgétaires, même si elles restent modérées. On a vu que les Américains avaient à la fois tenu la position vis-à-vis de leurs alliés japonais face aux volontés hégémoniques chinoises, mais pas totalement, comme je vous l'avais indiqué. Donc là, le Japon ne mollit pas et indique lui aussi qu'il est prêt à quelques émotions, mais qu'il ne se laissera pas faire. Et donc tout ceci reste quand même intéressant pour nous, puisque confirme le fait que les stratégies de tension vont être de plus centrées sur le de plus en plus centrées sur le Pacifique, avec pour conséquence un relatif voire plus important désengagement de la pression américaine sur sur le vieux continent qui devrait en toute logique être amené à décider lui-même de ses stratégies de défense. Les derniers échanges à Bruxelles sur la l'Europe de la défense, alors on ne sait pas si elle est déjà morte, encore morte, mort-née, mais en tout cas elle n'est pas bien brillante, montre que les Européens sont très loin de reprendre à nouveau la dimension tragique de leur histoire. Dans cette logique de tension à nos voisinages, il faudra surveiller surveiller de très près la Turquie. Donc on en avait déjà parlé il y a 4 semaines. Donc si je résume la situation, a éclaté en Turquie un séisme politique majeur autour d'affaires de corruption. Ces affaires de corruption ont éclaboussé de manière évidente un certain nombre de dignitaires du gouvernement de l'AKP, ses principaux ministres, y compris d'ailleurs, ce qui est drôle, le négociateur en chef avec l'Union européenne, qui a été obligé d'être remplacé par l'ancien président de la faction turque au Conseil de l'Europe, qui est lui plutôt hostile à l'intégration européenne. Donc ça c'est pour l'anecdote. Mais bref, il y a un véritable chambardement qui fait vaciller le pouvoir d'Erdogan. Pourquoi les missiles sont bien envoyés, que les cibles sont bien touchées et que ça fait dans le mille, c'est que on assiste à une sorte de révolution de palais au sein de l'AKP par cette confrérie qu'on appelle la confrérie des Gulen. Et on imagine, on dit, il se raconte que, ma foi, Erdogan aurait voulu cesser de subventionner les confréries et les universités de la confrérie et que Henri Poste, etc., etc. Sauf que, en avançant dans le conflit, on se rend compte que la situation prend un tour beaucoup plus piquant et que on est moins dans des affaires turco-turques. Alors Erdogan s'est clairement indiqué comme ceux qui veulent sa perte en ciblant les États-Unis et leur ambassadeur, l'Union européenne, ça fait pas de mal, et Israël. Avec notamment en indiquant que les États-Unis et le Mossad avaient collaboré pour mettre en évidence ces éléments de corruption. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? On sait très bien que le lien entre les Américains et les Turcs s'est distendu depuis une bonne dizaine d'années. Ça fait 2-3 ans que depuis l'affaire du cargo humanitaire turc pour les territoires occupés, il y a eu une radicalisation, enfin une rupture d'un certain nombre de liens militaires, diplomatiques, de collaboration des services de renseignement entre Israël et la Turquie. Et puis il se dit que cette tension soudaine ne serait pas totalement pourrait être lié d'abord évidemment au soutien assez inconditionnel d'Ankara au président égyptien Morsi, qui, ça ne vous a pas échappé, a été lâché par Washington, et puis sur le fait que les Turcs ont finalement décidé de négocier avec la Chine pour l'achat d'un système de missiles à longue portée, en dépit des protestations, bien sûr, de l'OTAN. Je vous rappelle que la Turquie fait partie des pays de l'OTAN, et d'autant plus qu'il s'agirait là de systèmes qui ne seraient absolument pas compatibles. Il y aurait donc, en tout cas, une velléité d'Erdogan, indépendamment des discours qui sont faits sur l'intégration en Union européenne, qui est censée rester une priorité. Il y a à l'évidence, et on en avait déjà parlé notamment avec notre invité spécialiste de la Turquie dont le nom m'échappe, Tancred Josserand, on en avait notamment parlé sur cette nouvelle direction de la Turquie vers l'espace turcophone et la volonté de remettre à jour un certain nombre d'alliances. Et puis, donc on est qu'au début, visiblement, de ces... C'est déjà le deuxième coup très rude contre Erdogan après toute cette contestation populaire, vous vous souvenez, suite à la volonté Taksim, sur la place Taksim, suite à ce projet immobilier en plein Istanbul. Donc voilà le deuxième coup de boutoir, avec une élection présidentielle qui est l'année prochaine, avec probablement une opposition entre Erdogan, qui ne peut plus être président du Conseil, puisqu'il a déjà fait 3 mandats, et qui souhaite être candidat à la présidentielle, et le président Gül sortant, qui a la faveur de la confrérie des Gulen. Donc intéressant de voir si cette recomposition politique nationale a des impacts ou pas sur les stratégies d'alliance de la Turquie. Et puis dernier commentaire pour rendre hommage à nos invités, je vais parler de leur maison puisque je voudrais vous signaler une nouvelle qui va enthousiasmer les cyber warriors, les officiers et les Bretons, puisque on vient d'apprendre que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui par ailleurs, était jusqu'à il y a peu président du Conseil régional de Bretagne, a décidé d'implanter à Rennes le pôle d'excellence du ministère de la Défense en matière de cyberguerre. Voilà, donc je voulais le dire. Donc c'est ici que c'est à Rennes que seront formés les futurs officiers en charge des opérations de guerre électronique au sein des armées françaises. Et puis comme il y a déjà une chaire de cyberdéfense qui a été mise en place à l'été 2012 à Saint-Cyr, on sera donc pas très loin les uns des autres. Voilà en tout cas des nouvelles dynamiques de notre armée et voilà cette fois-ci des officiers qui ne sont pas bonnets rouges mais bérets rouges probablement, mais voilà donc des nouvelles de l'armée et de la Bretagne. J'ai fini.
Ben merci à vous Philippe Christel, merci Pascal Essérick. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission des chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. Vous allez pouvoir nous réécouter d'ici jeudi ou sur le site de Radio Courtoisie ou même sur le site de la vieille Europe. Vous pourrez retrouver cette émission et je rappelle le titre du livre de nos invités, Israël contre le Hezbollah, de Michel Goya et de Marc-Antoine Briand, aux éditions du Rocher. Bonne soirée à tous.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up. Records available
always
in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He changed his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish?
You've
got to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.